Bonsoir. Situation sécuritaire dans le Nord Kivu. La situation reste incertaine. Ce jeudi, dans la ville de Goma, une panique s'est emparée de la population tôt ce jeudi 23 janvier 2025. Aucune communication officielle sur la situation à Sake, située à une vingtaine de kilomètres de Goma, qui serait tombée entre les mains du M23 soutenu par le Rwanda, selon plusieurs sources. De nombreux mouvements de la population se déplaçant vers Goma sont aperçus. Par ailleurs, des blessés sont également transportés sur des motos et autres moyens vers les hôpitaux. Quelle est sur faire de la situation sécuritaire au Nord Kivu? Nous en parlons ce soir avec Fumu Toto. Il est initiateur de la Troisième Voie, membre de l'Union Sacrée de la Nation. Monsieur Fumu Toto, bonsoir.
Bonsoir madame, bonsoir à tous qui nous suivent ou auront le temps ou l'opportunité de nous suivre.
Placide Nzilamba, il intervient depuis le Nord Kivu. Il est secrétaire technique de la coordination de la société civile du Nord Kivu, comme je l'ai dit. Placide Nzilamba, bonsoir.
Bonsoir madame, je suis là.
Aussi avec nous dans ce débat, Henri Pacifique Mayala, coordonnateur du baromètre sécuritaire du Kivu, Kivu Security Tracker. Henri Pacifique Mayala, bonsoir.
Bonsoir madame Kelly, bonsoir à tous les auditeurs de Radio Okapi.
À Goma au Nord Kivu, vous nous suivez sous la 95.5 et si vous êtes en dehors de la RDC, merci de nous rejoindre sur www.radiookapi.net, sur DSTV, canal 867. Vous avez aussi la possibilité de suivre cette émission en direct sur la page Facebook, le compte X et la chaîne YouTube de Radio Okapi. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiookapi.net.
Un calme relatif est observé en début de soirée dans les quartiers ouest de la ville de Goma, quand bien même les habitants continuent à se déplacer pour se mettre à l'abri. Des ambulances ont sillonné la ville toute la journée pour transporter les blessés civils et militaires vers les hôpitaux. Des véhicules militaires, des taxibus et motos transportant les habitants et leurs effets ménagers sont des scènes qui ont marqué cette journée de jeudi 23 janvier 2025. Pour rappel, une panique s'est emparée de la population de Goma depuis tôt ce jeudi jusque dans la soirée. Les autorités n'ont pas encore communiqué officiellement sur la situation à Sake. Et justement, en parlant de Sake, sachez que depuis quelques jours, les FRDC et leurs alliés, les Wazalendo, se battent contre les rebelles du M23 appuyés par le Rwanda pour le contrôle de la cité de Sake, situé à une vingtaine de kilomètres à l'ouest de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, une cité qui rêvait d'une importance stratégique sur plusieurs plans. Les détails avec vous, Papi Martial Moukeba.
La cité de Sake est bien plus qu'un carrefour. Elle constitue un point stratégique relié à Goma, à Masisi ou à Likale et le vaste territoire riche en ressources minières de l'ouest du Nord Kivu. Sake est également un verrou géographique essentiel pour le contrôle des mouvements dans cette région marquée par des tensions sécuritaires récurrentes. Sa position sur la route nationale numéro D en fait un axe incontournable pour les forces armées et les acteurs humanitaires opérant dans les zones conflit. Au plan sécuritaire et militaire, Sake occupe une place centrale dans les opérations militaires. Elle est l'un des verrous importants pour protéger la ville de Goma. Contrôler Sake, c'est garantir une emprise sur les routes stratégiques menant aux zones enclavées tout en limitant les mouvements vers ou en provenance de Goma et d'autres localités clés. Au plan économique, les produits agricoles et les minéraux transitent par Sake avant d'atteindre les grands centres de consommation. Ainsi, Sake reste un symbole de la complexité des enjeux du Nord Kivu où géographie, sécurité et géopolitique s'entremêlent. Goma, Martial Papimoukeba, Radio Okapi.
Merci Martial pour ce reportage. Placide Nzilamba, secrétaire technique de la coordination de la société civile du Nord Kivu. Dites-nous, vous qui êtes sur place, quelle est la situation ce soir dans la ville de Goma? Est-ce que les gens sont toujours paniqués comme on l'a vu au début ou dans la matinée?
Bon, la situation demeure calme à Goma. Après que les autorités aient attiré la population et nous-mêmes avoir visité
les lignes. On a un souci avec votre ligne téléphonique, Placide Nzilamba. Est-ce que vous pouvez bouger hein, pour voir si la qualité va s'améliorer?
Alors, je disais ceci. Là, c'est bon, madame?
Oui, ça va. Ça va mieux.
Alors, la situation est calme sur la ville. Après avoir rassuré la population que le danger est hors leur zone de vie, et aussi après avoir accueilli le nombre de déplacés qui se sont déplacés de Nzulo depuis hier, et d'autres qui se sont déplacés aujourd'hui qui quittent Mugunga pour aller vers des zones plus sécures. La situation est quand, à début de la journée, elle a été un peu surchauffée par des qui ont dit aux enfants de retourner à la maison parce que la situation n'était pas aussi tranquille.
Alors, Placide Nzilamba, est-ce qu'il y a eu une communication officielle par rapport à la situation de Saké? Est-ce que on vous suit difficilement, Placide Nzilamba? La réalisation va essayer de vous rappeler pour voir comment on peut améliorer votre ligne téléphonique. Fumutoto, vous êtes avec moi dans ce studio. Vous êtes initiateur de la Troisième Voie, membre de l'Union Sacrée de la Nation. La situation sécuritaire dans la province du Nord Kivu reste préoccupante. Aujourd'hui, il y a eu panique dans la ville de Goma parce qu'on a annoncé que les rebelles étaient une vingtaine de kilomètres de Goma, qu'ils auraient pris la cité de Saké. Vous avez suivi le reportage de mon collègue. Lorsqu'on prend Saké, c'est une porte d'entrée hein, de la ville de Goma. Comment vous analysez cette situation préoccupante dans le Kivu?
Ce qui est vrai, c'est que jusqu'au moment où nous parlons, et Saké et Goma, aucune entité n'est tombée entre les mains des ennemis de la République, c'est-à-dire le Rwanda avec ses messagers en République démocratique du Congo. Et c'est la communication officielle de l'autorité militaire que je viens de suivre quelques minutes avant d'entrer dans les studios ici.
Il a fait une communication officielle
oui,
à partir de Goma.
Que Goma n'est pas tombé et que Saké n'est pas tombé, que nos éléments, donc les FARDC, contrôlent encore ces entités et nous n'avons pas intérêt de les perdre.
Là, vous parlez de quelle autorité? Le porte-parole de l'armée?
Ben justement, c'est le porte-parole de l'armée, M. Ngike, qui avait communiqué il y a quelques minutes, j'allais dire. Donc, le problème qui est vrai, c'est que nous ne connaissons pas qui est ce Congolais qui ne sait pas que nous sommes envahis, nous sommes attaqués par le Rwanda. Et que nous sommes là en train de nous battre. Et nous n'allons pas nous laisser faire, et nous n'allons pas laisser le Rwanda prendre notre territoire, prendre notre pays et dominer sur notre pays. Mais seulement la guerre a 3 degrés d'être déclenchée. La guerre existe d'abord au niveau de la pensée qui choisit un corps et un millier pour des actes de terrorisme et de guerre comme nous le constatons. Ce que nous déplorons, c'est que ceux qui prennent les armes pour tuer leurs frères savent très bien qu'il s'agit du Rwanda qui est derrière eux, mais ils acceptent de prendre les armes et de continuer à tuer leur peuple. Notre armée a le moyen qu'elle n'avait pas hier, les moyens financiers, les moyens matériels, les moyens logistiques qu'il faut. Mais la guerre reste au niveau de la psychologie. On oublie de la journée, il y a eu des images, des vidéos qui ont circulé comme si Goma et Saké étaient déjà tombés. Vous voyez que nous sommes là en train de subir d'abord une guerre de médias, une guerre psychologique, une communication de mensonges. c'est que le premier élément qu'il faut exploiter maintenant pour équiper les Congolais à combattre les ennemis de notre existence, c'est d'abord le réarmement moral. Le Congolais doit conserver sa pensée et ne jamais perdre l'espoir, l'initiative et le courage de combattre Kagame et ses acolytes jusqu'à notre dernière énergie.
Alors, vous dites que l'armée a les moyens, a le matériel nécessaire pour faire cette guerre. Pourquoi alors ces localités sont en train de tomber presque sans combat?
Bon, sans combat, c'est difficile de dire que les localités tombent d'elles-mêmes sans combat.
Presque, je ne l'ai pas dit totalement. Bon,
alors, donc, si ça ne dépendait que de la volonté de l'armée rwandaise, soutenue, parce que pour moi, c'est l'armée rwandaise qui vit au Congo, soutenue par les commissionnaires ou les collabos congolais. C'est qu'ils pouvaient déjà être à Goma. Si Goma persiste, si ça que jusqu'à présent n'est pas entre leurs mains, c'est parce que nous travaillons, parce que nous avons notre armée. Mais vous savez qu'il y a un problème. C'est qu'il y a parmi les Congolais ceux qui ont vendu leur esprit. C'est qu'il y a parmi nous des infiltrés et même pas des infiltrés. Parce que tout le monde se rendra à l'évidence que l'accord signé entre le CNDP et le gouvernement de Joseph Kabila à l'époque, spécialement dans son article 12.8, stipule clairement que le CNDP doit venir avec la liste de tous ses militaires et ses policiers avec les grades leur donnés par leur chef militaire et leur patron ou parrain Kagame. Et que ces militaires, qui certains d'entre eux sont de nationalité et d'équité rwandaise, ont été déjà brassés et mixés dans notre armée. Or, au sens sécuritaire propre du terme, il n'y a pas d'armée sans âme. Et on ne brasse pas l'armée. Parce que brasser, ça veut dire quoi? C'est comme une femme qui prépare une nourriture, qui prend le sel, le piment, de l'huile, et les met ensemble. Aucune de ces composantes de la nourriture ne perd son existence. C'est ça le brassage. Mais lorsque nous acceptons, nous reconnaissons que notre armée a été brassée, qu'elle a été mixée, et qu'il n'y a pas eu effort idéologique, effort technique, effort politique de rendre cette armée homogène, nous ne pouvons pas ignorer que ce qui fait défaut aujourd'hui, ce n'est pas l'argent ou le moyen matériel ou technique. Parce que avec le travail de la DGI avec Barnabé Mwakadi, l'impulsion de l'IGF, nous avons maintenant le moyen financier que nous n'avons jamais eu depuis que le Congo existe. Et si nous prenons le montant que Kabila avait laissé, le président Kabila avait laissé pour l'effort de la guerre, c'était 400 millions de dollars. Mais aujourd'hui, nous sommes en plus d'un milliard de dollars affectés pour l'armée. Mais ce qui fait défaut, c'est la trahison. Ce qui
fait défaut, au sein de l'armée. Au sein de l'armée. Au sein de l'armée.
Voilà.
C'est pourquoi on n'arrive pas à neutraliser.
C'est ça le vrai problème. Le vrai problème, pas qu'on n'arrive pas à les neutraliser comme si notre armée ne travaille pas comme il faut. Notre armée se bat. Mais ces moutons noirs font défaut. Et nous finirons par les dénicher. Et nous finirons par les mettre hors d'état de nuire. Il faudra que les Congolais raisonnent. Aujourd'hui, nous devons nous rendre à l'évidence que le président rwandais et ses acolytes ont vu le départ de Mobutu. Ils ont assisté à l'entrée de Kabila père au pouvoir et ils sont arrivés jusqu'à nos institutions, à notre diplomatie et à la sûreté de notre état. C'est Kagame a vu Joseph Kabila entrer au pouvoir et collaborer avec lui jusqu'à son départ. Et que maintenant nous avons la chance d'avoir un président de la République qui dit à Kagame non. Beaucoup de Congolais ne savent pas que
entraîné, utilisé la méthode de Kabila.
Il a aussi collaboré avec Kagame quand il a pris le pouvoir.
Non, le président Tshisekedi n'a pas collaboré avec Kagame parce que quand il a pris le pouvoir, il avait négocié avec Kagame. Il continuait à le faire comme chef de l'État d'un pays voisin.
C'est une collaboration?
Non, 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 c'est différent. Du temps de Joseph Kabila, tout le monde savait que AFIDEL signifie RCD, RCD signifie CNDP, CNDP signifie M23, et que plusieurs accords d'intégration aux institutions ont été signés et que des étrangers ont pénétré visiblement notre sécurité, notre armée, notre police et notre système administratif. Félix Tshisekedi n'a jamais, comme chef de l'État, signé un accord d'intégration des éléments rebelles ou terroristes dans notre système, ni armée, ni police, ni politique. Ça signifie que Tshisekedi n'a jamais vendu l'arme sécuritaire du Congo. Mais Kabila l'a fait. Parce que chaque fois que Kabila intégrait un groupe militaire, armée, rebelle, terroriste, aux institutions, il y avait automatiquement défection d'un autre groupe qui restait aux frontières en train de combattre. Est-ce qu'il y a différence entre CNDP et M23? Mais lorsque la moitié du CNDP est entrée aux institutions, une autre moitié est rentrée aux rébellions.
On retient pour vous, Fumutoto, que le problème aujourd'hui de notre armée, c'est la trahison.
C'est d'abord la trahison et Kabila Joseph, ainsi que le président Mobutu,
sont plus aux affaires.
Vous savez, la faute politique d'un jour vaut 100 jours et des 100 jours vaut 10 ans et consorts. Donc, si Joseph Kabila avait donné au Congo une armée avec son âme, avec ses matériels, ses équipements, le président Tshisekedi aurait d'autres problèmes parce que l'insécurité zéro n'existe pas.
Alors,
dans la question
il y a un auditeur, Milan Kepenga, qui nous suit sur Facebook. Il demande, lorsqu'un militaire au front reçoit un salaire dérisoire, comment voulez-vous qu'il défende véritablement son pays?
Merci. Moi, étant de la troisième voie, je combats et la mésestion ou le mauvais traitement de nos militaires au front et ceux qui pensent que parce qu'il y a des pommes au sein de notre armée qu'il faut vendre l'âme de notre existence. Maintenant, si ces militaires-là, ils se trahissent, ils se vendent, ils se rendent parce qu'ici, d'après lui, on ne traite pas bien. Et si le Congo devient le Rwanda, il sera le militaire rwandais ou il va demeurer congolais.
Merci. Henri Pacifique Mayala, coordonnateur du baromètre sécuritaire du Kivu, Kivu Security Tracker. Qu'est-ce que vous avez comme information par rapport à la situation sécuritaire dans le Kivu, précisément à Sake?
Madame Kelly, d'entrée des jeux, je dirais qu'aujourd'hui a été un jeudi où la psychose a atteint son paroxysme au petit matin. Déjà depuis hier, la ville a été plus ou moins paralysée avec de longues durées de perturbation des serveurs électriques. Et au petit matin, il a été confirmé que la cité de Sake est tombée aux mains des rebelles du M23 soutenu par le gouvernement. Si vous me permettez, je vais revenir sur quelques opinions de mon co-débatteur au vu du caractère pédagogique de l'émission.
Allez-y.
Vouloir toujours dédouaner certaines personnes aux dépens d'autres personnes qui peut-être aussi ont eu à commettre des bourdes n'est pas la façon que nous parviendrons à construire ce pays. Vouloir dédouaner le président Tshisekedi de toute responsabilité pour ce qui concerne le dysfonctionnement multiple de notre armée aujourd'hui, je trouve cela très malsain et injuste à l'histoire et surtout aux jeunes qui sont en train de nous suivre là actuellement. On devrait se souvenir que dans une histoire récente...
S'il vous plaît, Henri Pacifique Mayel, est-ce que vous pouvez aussi la voir? Allô?
Pardon.
Est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort?
Ah oui, je m'excuse. Donc, je disais que dans notre histoire, récente, que Le M23 revient sur Kinshasa dans le cadre de pourparlers avec notre gouvernement, ce qui est légitime, qu'on ne peut pas refuser à un État souverain sous l'invitation du gouvernement en place. Et que d'autre part, aujourd'hui, ce que nous connaissons comme étant les commandants de premier rang au sein du mouvement M23 ont une fois été emprisonnés pour des motifs et raisons de trahison au sein des FARDC. Donc, je pense que lorsque nous essayons de trouver des pistes de solution à nos problèmes, il faut garder malgré nos appartenances politiques la tête froide et notre objectivité afin de dire les faits de la façon qu'ils se sont déroulés pour éviter de se retrouver dans les mêmes causes d'hier. Je pense que c'est bon de dire aujourd'hui que nous pouvons mobiliser beaucoup de ressources, mais essayer un peu de comprendre comment est-ce que l'allocation de ces ressources se passe, un peu comme le disait l'auditeur tout de suite, serait encore plus louable. Il est inconcevable, madame, que nous traitons la façon que nous sommes en train de traiter les hommes qui se battent pour nous sur le champ de bataille. Il est inconcevable que dans un pays où nous avons des députés payés en milliers de dollars, que nos combattants reviennent de fond blessés sur des motos. Ça démobilise, ça démoralise. Au-delà des problèmes multiples que nous avons évoqués, qui, les premières causes, ne sont pas la non-performance des troupes, mais plutôt au niveau du commandement et de la machine politique, il faudrait que nous soyons honnêtes avec envers nous-mêmes pour ne pas vouloir une chose et son contraire. Pour revenir sur la situation qui prévaut autour
de Goma,
Goma, il y a un retour précaire au calme, mais la psychose se fait sentir. Il y a eu, comme vous l'énonciez déjà, plusieurs déplacements de populations de Sake et des agglomérations environnantes vers la ville de Goma. On se rappelle qu'il y a encore 2 millions de personnes qui vivent dans des camps de réfugiés autour de la ville, auxquels continuent de s'ajouter non seulement les populations en provenance des agglomérations un peu avant Sake, mais aussi le littoral Bweremana jusqu'au niveau de Uzi-Boulenga. Et tout cela, c'est une crise humanitaire auquel les soi-disant fonds que mobilise le gouvernement, nous ne voyons pas d'impact sur le terrain. C'est la solidarité communautaire qui continue d'agir. Ce sont les jeunes de Goma actifs qui continuent à aller au chevet des réfugiés pour trouver un peu de bouillie, des médicaments de base, de couverture aux enfants qui naissent sous les bâches afin d'assurer leur survie. C'est là que nous devrions voir le gouvernement intervenir. Aujourd'hui, ce que nous avons, par contre, vécu, c'est une expérience qui en dit long sur la non-action autant du gouvernement que de ses partenaires. Je pense qu'il est grand temps que nous tenions responsables les personnes qui doivent agir. La question que s'est posée aujourd'hui tout Gomatracien était de savoir tout le matériel qui a été déployé aujourd'hui sur Sake, à quoi ça servait dans les entrepôts et pourquoi il n'a jamais été déployé pour en finir avec cette agression. C'est une responsabilité qui est mise en cause au niveau de du gouvernement congolais, mais aussi de la communauté internationale. Et je pense qu'il est vraiment grand temps qu'on cesse de se perdre et qu'on se focalise. Il est quand même anormal que une cité que vous avez bien évidemment définie comme étant le carrefour de la complexité de la province du Nord Kivu tombe entre les mains rebelles à 7h du matin et qu'à 14h, on parvienne quand même à inverser
la tendance et les rapports de force sur le terrain, mais que de façon globale, on soit incapable de trouver une solution, que ce soit par les voies militaires ou par les voies diplomatiques, à une insurrection qui a juste assez duré et qui a fait perdre beaucoup de vies humaines. Je pense qu'il faut vraiment réfléchir dans le sens où, si la diplomatie n'a pas marché, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas marché? Quelle est la responsabilité du gouvernement congolais? Quelle est la responsabilité du Rwanda au niveau régional? Et quelles sont les responsabilités au niveau international? D'autre part, s'il faut engager les forces, vu que, d'une certaine façon, la voie de la violence semble être privilégiée, pourquoi s'engager sous des cessez-le-feu tout en recourant à une force étrangère supposée être une force offensive, faire amener du matériel et l'entreposer quelque part, et que pendant tout ce temps-là, il y ait des milliers de vies que nous sommes en train de perdre, des enfants qui naissent sous des bâches, des mamans qui sont en train de mourir parce qu'ils ne peuvent pas avoir accès aux traitements de base, c'est juste anormal et inacceptable.
Merci. Placide Silamba, est-ce que vous êtes en ligne? Placide Silamba, est-ce que vous m'entendez? Alors, on a perdu Placide Nzilamba. Les auditeurs, vous êtes très, très nombreux à nous suivre hein, sur la FM et partout en RDC. Hein, justement, on va prendre ces auditeurs qui sont en ligne, qui veulent aussi donner leur point de vue par rapport au sujet de ce soir. On va prendre cet auditeur de Kinshasa qui est prêt, on me signale par la réalisation. Alors, on va prendre cet auditeur de Kinshasa, puis on revient dans ce studio.
Alphonse Tefou, depuis la ville province de Kinshasa. Je pense que l'armée congolaise commet une erreur stratégique très grave quand elle reste à la défensive. Nous sommes en guerre. Il faut aussi préparer les attaques contre ces Rwandais qui nous tuent aussi notre propre territoire. Nous avons des avions de guerre et les drones. Pourquoi ne pas les utiliser régulièrement? Cependant, nous demandons au ministre de la Défense et au chef de l'état-major général de l'armée d'aller rester à Goma pour bien suivre de près l'évolution de la situation et encourager la morale des troupes sur le terrain. Et le président de la République doit arrêter de voyager. Il doit rester au pays, identifier tous les militaires qui ont atterri dans l'armée par les phénomènes mixage et brassage pour les mettre hors de l'armée. C'est comme ça que nous allons gagner cette guerre.
Alors, comment vous réagissez aux commentaires de cet auditeur de Kinshasa?
Je vais d'abord commencer par...
Monsieur Pacifique.
Monsieur Pacifique, je pense que ce que vous ne connaissez pas existe. Moi, ici, je n'ai pas demandé aux gens qui nous suivent de dédouaner le président de la République ou les institutions de la République. Mais je dois les dédouaner parce que je ne pense pas de mon humble avis que les autorités de la République sont en complicité avec l'ennemi. Non. Mais maintenant, on ne peut jamais analyser une question de guerre sans établir d'abord la responsabilité historique. Parce que la guerre ne commence pas le jour du détournement des armes. Et l'insécurité dans un pays ne naît pas un seul jour. Je suis le premier peut-être apprendre que il n'y a pas à donner des responsabilités historiques lorsqu'il est démontrable que la personne qui a brassé, mixé l'armée était un général-major au pouvoir, Joseph Kabila, avant de devenir simple civil. Et d'ailleurs, l'armée est à un esprit, quelqu'un qui a déjà été militaire, même s'il dit qu'il ne l'est plus, l'armée c'est l'esprit, c'est la formation. Joseph Kabila était militaire, même s'il ne l'est plus.
Même après 6 ans, on n'arrive pas.
J'arrive. C'est pas qu'on n'arrive pas.
Il faut qu'on y aille un peu vite.
Non, mais madame, je vais d'abord raconter mon co-débatteur. Deux, moi j'ai dit ici sur votre plateau que je combats tous les mauvais comportements ou traitements que subissent ceux qui combattent sur le terrain pour notre cause par les responsables politiques, administratifs, militaires. J'ai décrié la trahison. Ça veut dire que je n'ai pas souhaité que le Congolais qui se bat sur le terrain puisse être maltraité. Mais je voudrais poser la question à mon frère Pacifique, j'espère. Le terroriste qui va aller se tuer, on lui donne quel traitement pour qu'il accepte de se tuer? Deuxième question, parce que si nous voulons dire aujourd'hui que si nos militaires trahissent, reculent parce qu'ils ne sont pas bien traités, je suis un peu d'accord parce qu'il faut quand même songer au sort des militaires, à l'équipement de celui qui est sur le terrain. Mais les insurgés là, les terroristes là, ils sont payés par moi combien pour qu'ils acceptent d'aller mourir pour une cause injuste? Troisième élément. Lorsque Lumumba accepta de mourir pour ce pays, il n'avait pas de femme à songer derrière lui. Non, ce n'est pas un argument de taille. Deuxième élément, la responsabilité des populations de l'Est. Parce qu'on ne fait jamais la rébellion, la guerre, sans renseignement et sans association avec la population. Les familles de l'Est qui acceptent de loger les Rwandais dans leur maison, c'est de les voir combattre. Mais comment ils peuvent entrer du Rwanda jusqu'à arriver à Sake ou vers Sake s'il n'y a pas de population qui les accueille?
Mais comment aussi ils peuvent entrer du Rwanda jusqu'à Sake alors qu'on a des services de renseignement?
Mais c'est ce que moi je vous dis, que les services de renseignement qui sont brassés, mixés, ce sont des services au service de l'ennemi. Et ce n'est pas Félix Tshisekedi qui a fait ça. Tout à l'heure, mon frère vient de répondre à une question très pertinente qui me donne raison à le savoir. Lorsqu'il dit « Où étaient ces armes ?» que nous avons vu sur sac aujourd'hui. Ça signifie que ces armes ont été achetées par le régime. Est-ce qu'on ne peut pas féliciter ce régime, ne fût-ce que pour avoir acheté ces armes-là?
Il y a l'auditeur de Kinshasa qui a demandé pourquoi on n'utilise pas ce matériel régulièrement.
J'arrive. Mais c'est là le problème. Et c'est là la responsabilité du pouvoir. Pourquoi ne pas réussir à mettre l'homme qu'il faut à la place qui fait défaut? Parce que cette situation d'insécurité n'a fait que perdurer. Là, moi, je ne dédouane pas ce qui nomme, ce qui ne révoque pas et ce qui maintient l'équipe qui perd. Là, je ne dédouane pas parce qu'il s'agit de la survie du Congo. Troisièmement, on ne peut pas dire que la solution diplomatique a échoué. Non. Moi, je suis convaincu que on ne fait jamais la guerre sans la diplomatie et que la diplomatie seule sans les armes ne réussit pas. Qui veut la paix, prépare la guerre. Nous avons besoin de l'arme, nous avons besoin aussi du dialogue, de la diplomatie, et que le chef de l'État n'est pas en train de sommeiller. Partout, il est en train de se battre, et sur place, il est en train aussi de négocier. Maintenant, est-ce que c'est parce que le chef de l'État a voyagé qu'on veut gagner Goma ou qu'on ne va pas le prendre? Non, ce n'est pas ça le débat. Le chef de l'État, lui-même, il n'est que responsable de la vision, de l'équipement et du commandement. Mais le chef de l'État n'est pas l'un des militaires sur le terrain, qu'il soit au Congo ou à l'étranger. Si les moyens avec des bonnes personnes et l'unité du commandement est sur le terrain, c'est toujours le chef de l'État qui est présent. Donc la présence physique du chef de l'État ne fait pas la guerre. C'est la présence idéologique, la présence spirituelle, la présence disciplinaire et la présence d'équipement qu'il faut. Maintenant, tout le monde sait que nous avons été brassés. Est-ce que nous ne pouvons pas dire que celui qui a donné des grades militaires et des grades policiers au sein de l'armée congolaise et de la police congolaise est le responsable numéro un de ce qui nous arrive? Est-ce que le fait de dire que Joseph Kabila, pour avoir, conformément à l'article 12.8 de l'accord signé entre le gouvernement de Kinshasa et le CNDP,
Mais après, le M23 était quand même ici à Kinshasa.
J'arrive là. Là encore, mon frère Pacifique a menti sous les institutions de la République. M23 n'a jamais été invité à Kinshasa par le gouvernement de la République. Le président de la République lui-même qui a donné cette information a dit, le ministre de l'Intérieur à l'époque m'a parlé d'eux, mais je ne les ai pas reçus. Mais
c'est quand même le ministre, mais
entre nous réfléchissons. Avant l'arrivée de Félix Tshisekedi au pouvoir, Joseph Kabila prétend avoir défait l'M23 et confisqué tout son arsenal militaire. L'M23 était devenu un parti politique, n'était pas un mouvement rebelle ou armé quand Tshisekedi arrive au pouvoir. Et si Tshisekedi devait les recevoir, il ne pouvait recevoir que des civils. Parce qu'on ne peut pas contredire Kabila dans sa logique. Il a défait l'M23. Tu sais qu'il est arrivé au pouvoir, pas par les armes. Il avait encore quel intérêt de créer une rébellion contre lui?
Il y a une branche armée, une branche politique.
Alors c'est Kabila qui a fait le maçon du peuple. Le maçon
Donc, pour vous aujourd'hui, si nous sommes dans cette situation, c'est la faute de l'ancien président de
la République. Madame la journaliste, réfléchissons. Voici une préoccupation.
Non, répondez juste.
Je réponds à la question. Kabila nous dit ceci, il a défait l'M23 et son arsenal militaire a été confisqué. Maintenant, s'il vous plaît, l'autre branche, la branche militaire du M23 était défaite par Kabila ou ne l'était pas? Si cela n'a pas été le cas, c'est un mensonge d'État. Qui a menti, c'est Félix Tshisekedi ou Kabila qui nous a trompé qu'il a défait l'M23?
L'M23 était à Kinshasa, oui ou non?
Et l'M23 qui était à Kinshasa, c'était l'M23 militaire déjà défait.
L'M23 était à Kinshasa, oui ou non?
Non. M23 comme mouvement militaire, non, quand Tshisekedi arrive au pouvoir, parce que...
C'était la Kabila... branche politique, selon vous.
Non, mais il n'y a plus de deux branches, parce que Kabila ne nous avait pas dit qu'il y avait des branches, qu'il avait vaincu une et non une
Merci
autre.
Merci, Fumuntoto. On va prendre cet autre auditeur. On me signale que la société civile est en ligne. Placide Ndilamba, vous êtes là? Placide Ndilamba, est-ce que vous êtes en ligne? Allô?
Dans la zone minière. Allô?
En tout cas, on a un souci avec votre ligne. Dites-nous, on signale de nombreux mouvements de la population se déplaçant vers Goma. Qu'en est-il, Placide Ndilamba?
En tout cas, Goma est devenu un grand point de déplacés actuellement. Parce que les déplacés, aujourd'hui, à voir leur nombre, il dépasse déjà le nombre total de la population de la ville de Goma. Et que donc, Goma mérite une attention particulière aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, si Goma serait attaqué, comment le gouvernement ou comment même la communauté internationale va gérer la question de déplacer interne ici à Goma? Et que donc, aujourd'hui, la population qui est venue même d'ici de Kivu est à Goma actuellement. Donc, Goma, c'est un grand camp de déplacés. Mais maintenant, ce qu'on regrette, c'est que c'est un grand camp encerclé. Encerclé par les M23. Et que donc, si les M23 aujourd'hui prenaient la décision de venir à Goma, donc ça sera une catastrophe humanitaire qui n'a jamais été vécue même au monde. Et qui pourra nous produire même des conséquences très, très, très fâcheuses. C'est pourquoi nous, à notre niveau, c'est de demander aujourd'hui à l'Union européenne, l'Union africaine, aux États-Unis et même aux Nations unies de bien vouloir tout faire pour que cette guerre s'arrête et que tous ces déplacés rentrent chez eux dignement pour vaquer librement leurs occupations. Parce que c'est une guerre inutile dont on ne comprend pas même les mobiles.
On va vous garder en ligne, on va écouter cet auditeur qui nous appelle depuis Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga.
Achille Omar Tchepele, depuis la ville de Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. L'avancée des rebelles du M23, soutenue par le Rwanda, en récupérant plusieurs localités du jour au jour, crée des aveux envers les autorités, car toutes ces chutes du jour au lendemain des localités peuvent expliquer toutefois le faillite de plans de résistance et de la défense mis en place par nos forces, malgré le changement des commandants dans ces secteurs opérés par le président de la République, rien ne promet une suite favorable. Kinshasa, qui ne veut pas dialoguer, doit alors s'imposer avec des mesures idoines et efficaces, louer des experts en guerre, par exemple de la Russie, tourner le processus de paix en prenant comme parrain, comme Donald Trump par exemple, de grandes forces et puissances pour mener une chasse à l'homme de ces terroristes et en finir une fois pour toutes avec ces individus.
Alors qu'est-ce que vous pensez de cet auditeur ou de ce que dit cet auditeur de Lubumbashi, Placide Ndilamba? Placide Ndilamba, Décidément, le réseau ne nous facilite pas la tâche. Pacifique Mayala, on va écouter cet autre auditeur pour vous, hein, cet auditeur qui nous appelle de Kisangani dans la province de la Tchopo.
Rémi Lokonga depuis Kisangani dans la province de la Tchopo. La situation sécuritaire dans la province du Nord Kivu est actuellement volatile et préoccupante avec l'avancée des insurgés à quelques kilomètres déjà de la ville de Goma. À mon avis, la solution à cette crise est à la fois militaire et politique. Sur le plan militaire, il faudrait que le pouvoir de Kinshasa puisse se trouver un partenaire influent sur l'échiquier international pour lui venir en aide afin de stopper cette menace en vertu du principe de l'équilibre des puissances en relation internationale au regard des grands défis auxquels notre armée est confrontée. Sur le plan politique, bien que ça soit une ligne rouge pour le régime en place, il faudrait que le gouvernement puisse directement négocier avec les insurgés au nom de la paix, mais avec comme préalable de ne pas lui permettre d'intégrer l'armée pour ne pas occasionner les infiltrations de notre appareil sécuritaire comme le cas échéant dans les précédentes négociations.
Pacifique, Mayala.
Oui, peut-être que je voudrais aussi clarifier mon propos précédent. Les outils et engins militaires qui ont aujourd'hui assisté à inverser les rapports de force sur le terrain, je faisais allusion aux forces de la MONUSCO et de la SADC. À Monsieur Toto Fumu, j'espère qu'il sera très fier de lui-même quand il recevra la rediffusion de l'émission. Quant à notre auditeur, je continue de penser que la solution ne nous viendra pas d'ailleurs. Je le répète encore, nous n'avons pas de mauvaises troupes. Il faudrait revoir notre façon de faire quand il s'agit de la redistribution de notre richesse interne. Oui, les facteurs exogènes contribuent au malheur que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, mais nous ne pouvons pas faire volte-face comme si de l'intérieur, nous ne savons pas que nous sommes gangrénés par des problèmes de gouvernance. Le clientélisme au sein de l'armée, l'ethnisation de l'armée supposée être un service public. Tout cela, ce sont des problèmes que nous devons mettre sur la table, faire face avec toute objectivité afin de pouvoir y apporter des solutions durables. Pour ce qui concerne la négociation, j'ai toujours soutenu que nous ne pouvons pas forcer la République démocratique du Congo à vouloir discuter avec un acteur illégitime du moment qu'il a été très bien documenté que le Rwanda, qui est un gouvernement souverain égal au Congo, est derrière le M23. C'est que nous avons vu de rébellion. Ce pays est en train de connaître plus de 100 coups d'armée à l'est de la République démocratique du Congo. Et eux, ils sont des super rebelles, bien vêtus, bien équipés. Tout cela vient de quelque part. Le groupe d'experts indépendants des Nations Unies a publié plus de 6 rapports là-dessus qui démontrent noir sur blanc que ce qui est le soutien du Rwanda au M23. Là-dessus, si le Congo estime que l'interlocuteur valable avec lequel il devrait discuter, c'est le Rwanda, je pense que c'est une ligne sur laquelle il ne faudrait pas tenir assez de rigueur au gouvernement. On a vu les efforts qui ont été mis en place. Malheureusement, le processus de Luanda stagne. Mais ce n'est pas comme si on n'avait pas d'alternative. Il y a eu le processus ou l'accord cadre d'Addis Abeba. Là, au moins, tous les acteurs étaient représentés avec des responsabilités, quoique pas assez détaillé, mais au moins il y a une ébauche sur quoi on peut déjà partir pour espérer avoir un processus de paix qui pourrait fonctionner. Mon co-débatteur, M. Toto, est en train de remettre en cause les fruits
du processus de Santiti. Mais souvenons-nous qu'il n'y avait plus de Congo. Il s'agissait de trois lotins de terre pour lesquels on devrait faire des concessions pour avoir ce pays pour lequel Lumumba est mort. Aujourd'hui, oui, on peut tout dire, mais ce processus, il a fait son temps. S'il n'a pas abouti, s'il n'est pas parvenu à nous accorder, à nous doter d'une armée digne d'être appelée un corps militaire, les causes, nous les savons aussi. Nous avons besoin de ce processus de paix si nous estimons que la diplomatie n'est pas notre moyen par excellence de pouvoir rétablir une paix durable. Alors trouvons-nous le moyen de notre politique. Au début de cette crise, c'était beaucoup plus le tout militaire, mais après on s'est rendu compte que voilà, ça ne fonctionnait pas. Nous sommes allés chercher des solutions aux mêmes personnes, auprès des mêmes personnes qui étaient en train de nous agresser en allant vers la communauté de l'Afrique de l'Est. Nous sommes allés chercher des solutions auprès des mercenaires qui sont gracieusement payés beaucoup plus que nos militaires, décemment logés dans les meilleurs hôtels de Goma. Et jusque là, les résultats, ils se font pas voir sur le terrain. Là, nous sommes avec la force offensive de la SADC, qui, au moins pour aujourd'hui, a été à salutaire parce que nous avons vu les résultats. Mais dans l'entretemps, on continue à s'embrouiller dans des accords de cesser les feux. C'est une confusion que l'on veut persister pour Dieu seul sait la raison. De part et d'autre, il y a des responsabilités à établir, que ça soit au niveau de la communauté internationale, au niveau régional ou au niveau du gouvernement congolais. Raison pour laquelle il nous faut revenir sur ces bases-là qui ont plus ou moins à un certain moment présenté certains espoirs.
Merci.
Continuer à tergiverser, trouver des solutions ailleurs, ça n'a pas marché. Continuer dans cette posture ne revient que à s'inscrire dans une certaine insanité.
Placine Dilamba, est-ce qu'il est en ligne? Placine Dilamba, vous êtes là? Ça marche pas avec sa ligne. Alors, vous êtes très très nombreux à nous envoyer des messages hein, sur la page Facebook de Radio Kapi. Rebecca Mouya, Fumutoto a raison. Le grand problème à l'est du pays, c'est l'ancien régime. Nous demandons à nos frères de l'est de dénoncer toutes les personnes qui collaborent avec le M23. Ornirkar Banza, merci. Qui nous suit depuis Likasi, dans la province du au Katanga, Maindo. Alors, je n'arrive pas à bien lire votre réaction, Monsieur Maindo. Nestor Mukeba pense que les autorités congolaises doivent comprendre une chose, être réalistes en matière de relations internationales. Ce qu'ils doivent faire est d'accepter le chemin des négociations parce qu'il n'y a jamais eu de paix sans les pour parler. Alors, très brièvement,
rapport à ce que dit cet auditeur. On vient de se comprendre que La formule que Tshisekedi refuse d'aborder, la plus simple et la plus facile qui est appliquée par Joseph Kabila et qui a mené le Congo dans l'insécurité où il est aujourd'hui. Si on dit négocier, c'est très simple, ça peut même pas prendre deux heures. Ça signifie que Kagame vous dit « je veux la paix avec Kinshasa » mais que Kinshasa négocie avec ses rebelles. Alors que son gouvernement soutient visiblement les insurgés. Ça signifie que si vous négociez, que vous faites entrer ces insurgés, même si c'était des Congolais dans votre armée, dans votre pays, dans le système politique, c'est Kagame qui est entré. Est-ce qu'on aura la paix dans la maison où est-ce qu'on confie la direction de son pays à son ennemi? Par contre, le chemin de Tshisekedi nous dit, je ne vais pas négocier avec ces gens-là parce que ce ne sont pas eux qui sont les auteurs et les gens qui nous agressent. S'il y a des négociations de haut niveau, je vais les faire avec Kagame. Et comme le président Tshisekedi a réussi à dénuder Kagame, Kagame se cache à son tour derrière les rebelles. Moi, Fumutoto, en tant que Congolais, je dis ceci. Ce n'est pas l'armée étrangère, les négociations, les aides des autres qui vont nous aider à nous en sortir. Il faut que nous puissions mettre une discipline, un équipement et une coordination effective dans notre armée avec l'homme qu'il faut à la place qu'il faut au défaut. Ce n'est que lorsque nous-mêmes serons en mesure de nous défendre que nous serons avec quel allié nous allons le faire. Mais les schémas de négocier avec les rebelles, si le président accepte ça, ça sera facile. La guerre va prendre fin, mais la meilleure guerre va continuer. C'est la fausse guerre qui va prendre fin. Parce que l'Afdel est entrée, il y a eu une paix, c'était la fausse paix. Le CNDP et le RCD est sorti, après le CNDP est venu, après l'M23, maintenant c'est l'Alliance Fleuve Congo, maintenant c'est l'M23. Ça va continuer comme ça. La voie de négociation n'a d'autre schéma que d'intégrer les envoyés de Kagame dans les institutions. Et donc, si vous avez le diable en esprit, même si vous ne l'avez pas en chair, mais c'est toujours le diable qui continue la mission. Chers compatriotes, il y a un seul élément à protéger, c'est notre pensée pour notre Congo. Je illustrerai par un exemple. Les terroristes qui acceptent d'entrer dans un avion, sachant qu'il va mourir, n'a-t-il pas de femme? N'a-t-il pas d'enfant? Dites-moi, est-ce que c'est parce qu'on lui a trop payé alors que lui-même sait consciemment qu'Azoua Okoufa dans des heures qui arrive. Il meurt pour sa cause. Et nous pouvons conditionner le Congo? Non. Battons-nous contre Kagame et ses alliés. Ne négocions pas. Au contraire, moi, je pense que nous finirons d'abord par bombarder le Rwanda et que la communauté internationale va prendre les choses au sérieux.
C'est la RDC doit déclarer la guerre.
Mais justement, parce qu'on va là-bas, parce qu'on ne peut pas accepter d'intégrer les Rwandais encore dans les institutions.
Merci, Fumutoto. On va considérer cela comme votre conclusion. Pacifique, vous avez la parole pour votre mot de la fin.
Oui, merci encore une fois à Madame Kelly. Déclarer la guerre, c'est très bon devant un micro. Le premier citoyen du pays nous l'avait déjà promis. Le moment qu'un seul Congolais de plus perdrait sa vie. Et jusque-là, nous sommes à des milliers de vies que nous sommes en train de perdre. Soyons rationnels, ne gérons pas ce pays en mercenariat. Moi, je pense que si nous voulons adopter ce chemin de la guerre, trouvons-nous les moyens de notre politique. Un député ne devrait pas être payé des milliers de dollars et qu'un militaire ait pour solde moins de 100 dollars. C'est inconcevable, ni Mazarao. Ça ne passe pas. Soyons honnêtes envers nous-mêmes. Rejetez les responsabilités aux populations de l'Est au moment où nous avons un gouvernement qui devrait prendre ses responsabilités, que ce soit sur le plan défense ou sur le plan diplomatique, est là en place depuis plus de 5 ans maintenant pour un deuxième mandat. C'est injuste et c'est hypocrite. Soyons honnêtes tout d'abord envers nous-mêmes. C'est de cette seule façon que nous pourrons amener la paix aux populations qui continuent de souffrir à l'est de ce pays.
Merci Henri Pacifique Mayala, dialogue entre Congolais. C'est fini pour ce soir. Vous allez nous excuser pour les difficultés qu'on a eues par rapport à la ligne de Placide Nzilamba qui est de la société civile du Nord Kivu. Merci Monsieur Fumutoto d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à toute l'équipe qui m'a accompagné. Guy Maté, Freddy Bikumbi. Merci à Clément Chimanga, Hervé Voka, Jusse Jean-Claude Siala, Martin Sebouchang va superviser ce programme. Merci également à Bertin Kassiama, présentation et coordination qui est écoutée. Bonne suite de programme sur Radio Capi.